Vous écoutez Dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile au plus haut niveau. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un leader. Je suis Amandine Deslandes, directeur associée de Marseille, organisme de formation, management et leadership. Dans cet épisode, je reçois Gaël Baudenès. Ingénieur naval, Gaël est aussi diplômé de l'exécutive MBA d'HEC Paris. Après 7 années à la direction générale de l'armement et au chantier naval de Brest, il devient courtier maritime offshore pour Barry Rogliano Sales. En 2002, il rejoint le groupe Bourbon comme coordinateur marketing de la division offshore. Il y gravit rapidement les échelons jusqu'à être nommé en 2011 directeur général délégué des opérations du groupe. Il en est désormais le directeur général de plein exercice depuis plus de 4 ans. Dans cet entretien, Gaël nous parle de ses responsabilités et des enjeux de ses fonctions qu'il conduit avec calme et détermination. Un exemple de tempérance face à la crise qu'il est toujours bon d'entendre. Eh bien, Gaël, merci beaucoup d'être l'invité de notre podcast Marseille. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Je vous pose ma première question hein, pour se mettre un petit peu en jambes pour cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous partager votre devise ou votre mantra, ou enfin en tout cas quelque chose qui vous drive dans votre vie professionnelle au quotidien ?
Quelque chose qui me drive dans mon quotidien.
C'était un mantra de... C'est prenez votre travail au sérieux, mais jamais vous-même.
Ah, ok. J'aime beaucoup.
Je crois que j'avais lu ça dans... C'était un des mantras de Eisenhower.
Ah, ok. Intéressant. Merci pour cette première réponse. Pour continuer un peu dans cette introduction, est-ce que vous pourriez me citer, nous partager deux moments clés dans votre carrière, ces moments où les chemins se croisent, ou des rencontres marquantes peut-être ?
Oui, je pense que les moments clés dans ma carrière, c'est surtout été autour de rencontres marquantes. J'ai démarré en fait à la DCN à Brest, je travaillais sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et à l'époque, nous étions une entité purement étatique. Mm-hmm. Et l'objectif de cette organisation était de se diversifier pour essayer de les charges militaires diminuant. L'idée était d'aller rechercher de l'activité dans le secteur privé, et en particulier dans l'offshore pétrolier, activité dans laquelle je me trouve toujours d'ailleurs. Et nous avions, recherché la construction de deux plateformes pétrolières que nous avions gagnées auprès de la société SEPCO Forex à l'époque. Et lors de cette, diversification ou recherche de nouvelles activités, j'avais rencontré d'abord un nouveau métier et de nouvelles équipes qui travaillaient complètement différent de ce que l'on pouvait faire dans notre activité militaire. C'était notre client, dénommé Pierre Morvan. Moi, à l'époque, j'étais très jeune, hein, je devais avoir 25-26 ans. Je démarrais ma carrière. Et il m'a fait confiance dès le début et m'a, d'abord permis de comprendre ce nouveau métier. Ensuite, de nous faire confiance pour que l'on puisse faire une offre sur la construction de ces deux plateformes de forage, et finalement à accepter de confier ce travail à la DCN de Brest. C'était une nouvelle aventure qui a commencé. C'était une première main tendue que j'ai saisie. Et d'ailleurs, je ne suis pas resté à la DCN puisque j'ai changé de métier un an après, pour découvrir de nouveaux horizons et couvrir ces nouveaux métiers, ces nouvelles façons de travailler.
D'accord. Effectivement, des rencontres marquantes qui peuvent réorienter une carrière.
Oui, donc du coup, j'ai décidé de quitter mon statut d'ingénieur militaire à ce moment-là et de devenir courtier maritime chez la société Barry Rogliano.
où là, c'était un métier complètement différent, puisque l'objectif était de partir d'une feuille blanche et d'essayer de créer du business, comme on dit, en mettant en relation des chantiers de construction et des clients potentiels.
Mais du coup, si je comprends bien, vous quittez un emploi avec une forme de sécurité pour quelque chose d'un peu plus inconnu.
Oui, puisque ce que je me suis dit, c'est que en étant, c'est vrai que quand vous êtes dans une organisation type la DCN, votre emploi est plus sécurisé et votre plan de carrière était à l'époque assez bien tracé, même si ça a beaucoup évolué depuis et que Naval Group n'a plus rien à voir avec l'organisation que j'ai pu connaître.
Mmh.
Oui, ma problématique était de se dire je ne peux pas à 25 ans ou à 26 ans me dire que mon chemin est tracé et que je sais déjà quel est le point d'arrivée, quoi. D'où cette volonté d'aller voir ailleurs, parce qu'il y avait plein d'autres mondes et d'autres façons de travailler à découvrir. Par contre, mon driver ou mon fil conducteur a toujours été de rester dans un métier autour de la mer.
Il y avait une raison particulière à ça ?
J'ai toujours vécu à côté de la mer. J'ai toujours été passionné par la voile, la planche à voile d'abord et ensuite les régates. Et je me voyais mal aller travailler dans un autre horizon, sachant que à la DCN à Brest, nous étions dans un chantier de construction navale, donc c'était ce qui me passionnait et m'intéressait. Ça me permettait, en basculant dans le monde du courtage maritime, de continuer à avoir une autre facette du métier tout en restant proche de la mer.
Ok. Merci pour ces premiers propos. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. L'idée étant d'aborder plusieurs thématiques et la première qui nous occupe, c'est la prise de décision dans un environnement plus ou moins complexe. Est-ce que vous pourriez partager la manière, peut-être vos méthodes, pour prendre des décisions stratégiques ?
Voilà. Effectivement, question intéressante. Je dirais que la première chose, c'est d'abord pouvoir avoir une vision la plus neutre possible des faits par rapport à la crise dans laquelle ou dans la situation par rapport à laquelle vous vous trouvez. C'est acquérir l'information la plus globale possible et la plus neutre possible. Et pour moi, cette période-là, elle est clé parce que il faut réussir à prendre du recul et à enlever tous les éléments passionnels. Je parle bien de période de crise hein, ou de grandes décisions stratégiques.
Mm-hmm.
Et pour ça, je dirais, de mon côté, j'ai une phase assez longue, d'abord d'échanges et de discussions avec beaucoup d'intervenants, tous les intervenants qui sont autour de moi, une phase d'écoute, de challenge. La difficulté étant de se battre contre ses propres idées arrêtées, puisqu'on a toujours, je dirais, au démarrage, ce que l'on appelle soi-disant de l'intuition ou des idées, de ses propres idées. Et une fois que, c'est simplement une fois que j'ai pu rassembler, je dirais, tous ces éléments-là, ça peut prendre quand même pas mal de temps, en tout cas dans ma façon de fonctionner. Et c'est simplement une fois que j'ai ces éléments-là, je prends une direction, pas forcément la décision finale, une direction que je vais là encore à nouveau challenger avec mes équipes proches.
Intéressant. Donc je vous ai entendu dire soi-disant intuition. J'en déduis que vous aimez les choses, l'approche pragmatique. Que vous préférez l'approche pragmatique à l'approche intuitive.
Oui, tout à fait. Il faut avoir une vision long terme, quelque chose en quel on croit qui est notre moteur personnel ou en tout cas du projet dans lequel on veut aller. Mais par contre, après, une fois que l'on a cette certitude ou cette conviction. Après, effectivement, je pense qu'il faut, enfin, en tout cas pour moi, je pense qu'il faut beaucoup échanger, beaucoup écouter avant de prendre des décisions, surtout quand ce sont des décisions difficiles.
J'entends aussi beaucoup que vous appuyez sur vos équipes, sur le collectif, parce que vous avez le sentiment que c'est comme ça qu'on a la vision la plus globale, peut-être ?
Je pense que l'intelligence collective est beaucoup plus puissante que l'intelligence personnelle. Donc, on ne peut pas avoir la vision d'ensemble si on n'échange pas avec les autres, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai qu'il y a deux types de leadership, hein. On est habitué à dire soit c'est des leaderships type Napoléon, hein. Il y en a un qui sait et tout le monde suit derrière, ou plutôt type Gandhi qui accompagne son peuple. Moi, je suis plus effectivement sur du management collectif et de participation. Hein.
Est-ce que vous avez, au cours de votre carrière, un exemple, une anecdote par rapport à un moment de prise de décision et justement où cette méthode que vous utilisez a été particulièrement pertinente ?
Je dirais le moment le plus, effectivement, le plus marquant, c'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment chez Bourbon. Puisque nous avons souffert, je dirais, de la crise, la baisse du prix du baril en 2014, ce qui a engendré ensuite une mise en redressement judiciaire de la société et une reprise par ses banques. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui a été fait en début d'année. C'est une période qui a été très longue, qui a duré quasiment un an et demi, un processus très long, Typiquement, je ne vois pas comment on aurait pu s'en sortir sans le bloc qu'ont fait les équipes Bourbon, sachant que quand on est dans des périodes de stress et d'incertitude longue, vous avez toujours forcément des moments de doute ou de fatigue, et c'est à ce moment-là que d'autres personnes prennent le relais, et ça c'est clé, quoi. Donc période particulière, je dirais, en ce moment où on le démontre, tous les jours, quoi. C'est la pertinence de cette méthode, quoi.
Vous m'offrez une transition parfaite avec notre deuxième thématique, qui est justement la gestion de crise. Est-ce que, alors là, vous avez déjà répondu en partie à la question en m'expliquant que vous viviez depuis quelque temps une crise un peu particulière dans votre entreprise. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette crise et sur comment vous y avez fait face? Alors, on a compris dans votre manière de décider, de manager cette dimension du collectif, mais plus généralement, quelles ont été vos méthodes pour faire face à cette crise?
La grande difficulté, hein, quand on parle de crise, dans le monde de l'entreprise, c'est l'incertitude permanente du lendemain, puisque les choses évoluent tellement vite que il est compliqué de pouvoir se projeter à moyen et encore moins à long terme. Donc le point, en fait, c'est de pouvoir, en fait, prendre du recul. On est beaucoup, je dirais, attendu ou regardé sur les prises de décision et sur la façon dont on agit. Et à ce moment-là, il est important de toujours montrer un point futur à atteindre, même si c'est à très court terme, pour que les gens autour de vous, les équipes, gardent confiance, même si l'environnement est très très mouvant et très compliqué à prédire. Donc, à un moment donné, dans une période de crise, on parlait de pragmatisme ou de décision. À un moment donné, on n'est plus capable, puisque les éléments sont trop flous, de pouvoir s'appuyer dessus. Et à ce moment-là, il faut continuer à croire et avancer et faire passer cette confiance et cette croyance pour que les gens vous fassent confiance, vous suivent et vous aident, quoi.
Vous avez cité plusieurs fois le mot confiance. Chez Marseille, c'est une notion qui nous parle, puisqu'on dit souvent que la confiance est la clé de la performance. Et j'entends beaucoup ça dans votre manière d'aborder les situations. Est-ce que c'est un mot qui a une importance particulière dans votre façon de fonctionner ?
Ah oui, je ne peux pas travailler si j'ai pas confiance. Je peux pas travailler si j'ai pas confiance. Ça, c'est sûr. À la fois auprès des équipes proches, enfin, mais aussi vis-à-vis de toute hiérarchie. Pour moi, la confiance est l'élément clé sur lequel on peut construire. C'est la seule brique forte sur laquelle on peut construire dans la durée.
Je partage en effet. Nous allons donc passer à la thématique suivante qui va sortir un petit peu de cette notion de crise, quoique, puisqu'on va parler de concentration. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment faites-vous dans ces périodes complexes, qu'elles soient des périodes de crise à proprement parler ou des périodes où il y a des décisions stratégiques à prendre, comment faites-vous pour vous concentrer et rester concentré?
Non, dans les périodes de forte tension ou de forte crise, je pense que la concentration, enfin, j'arrive à garder la concentration, si on peut appeler ça la concentration, je dirais, c'est dans le travail, en avançant petite étape par petite étape. Mmh. C'est-à-dire en réduisant le champ des possibles et juste se concentrer sur le moment présent, faire ce qui est à faire, point. Et au bout d'un moment, petit à petit, les choses se redessinent ou se dessinent de façon claire, ce qui permet après d'avancer plus loin, quoi.
C'est quelque chose de simple pour vous de rester connecté au temps présent ?
Simple, une fois que je m'en suis rendu compte, oui. C'est-à-dire que une fois que j'ai compris ou je comprends, et se connaître est à mon avis un élément essentiel, une fois que je comprends que je suis en période de forte tension ou de stress ou de fatigue, c'est à ce moment-là que, une fois que cette phase-là d'analyse ou de recul est prise, après, oui, c'est facile.
Ok. Je comprends de ce que vous m'expliquez là et aussi de ce que j'ai lu de votre parcours que vous êtes un homme de challenge. Vous n'avez pas hésité à plusieurs reprises soit changer de secteur, soit j'ai vu récemment. Vous vous challengez aussi avec une reprise d'études. Est-ce que ça a été marquant, ça, dans votre carrière ? Je sors un peu du cadre de la concentration, mais ce que vous venez de dire m'y fait penser.
Je pense que, oui, les moments dans ma carrière où j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai changé de secteur et quand je me suis un peu lancé dans l'inconnu. C'est effectivement à ces moments-là que ont été à la fois à titre personnel et à titre de carrière les éléments les plus, les tournants les plus marquants de ma carrière.
Et vous vous définiriez comme un homme d'objectif? Vous aimez avoir toujours un objectif en vue en particulier?
Non, pas particulièrement, non. Non, il faut que, pour moi, il faut que, il faut pas que je m'ennuie, et il faut que j'aime bien progresser ou apprendre tout le temps. En fait, c'est à partir du moment où, je n'ai pas d'objectif particulier, mais à partir du moment où j'ai l'impression de ne plus apprendre ou de ne plus progresser, c'est à ce moment-là que je pense qu'il faut changer et bouger, quoi.
Et encore une fois, une transition facile, puisqu'on va parler de motivation dans la suite de cet entretien. Est-ce que cette manière justement de progresser, c'est ce besoin de progresser au quotidien, est-ce que c'est votre manière d'être motivé ?
Oui, je pense que oui. Ça doit être ma motivation première et profonde. Oui.
Et de manière plus générale, quelles sont les choses qui vous motivent ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'être motivé et de le rester surtout ?
Ben, je pense que c'est à la fois cette volonté d'apprendre, de progresser, de voir des choses nouvelles. Donc ça, c'est à titre personnel. Et puis ensuite, dans des périodes
dans des périodes, et puis c'est aussi, je dirais, les réussites collectives que l'on réussit ensemble quand on réalise, quand on s'est fixé des objectifs, par exemple professionnels. C'est ces réussites collectives qui font que toute l'équipe arrive à délivrer le projet et arriver au bout, quoi. Ou à tenir, tout simplement, dans des périodes de crise, quoi. C'est pour ça que j'avais commencé, je parlais de la voile, j'avais commencé très rapidement à faire de la planche à voile, mais très vite j'ai préféré la régate, hein, parce que ce sont des expériences ou des travails de plusieurs personnes ensemble qui font que on arrive à délivrer ou à gagner ou en tout cas à progresser, quoi. Et c'est ça qui est clé pour moi.
Et justement, par rapport à ce fonctionnement là, vous faites un parallèle avec la voile qui, vous en douterez, me ravit. Ce fonctionnement d'équipage.
J'ai un très bon souvenir en régate. C'était une régate de nuit à Trinité-sur-Mer. On était en J24, donc on n'avait pas droit au GPS à l'époque. On devait aller chercher une bouée qui malheureusement n'était pas éclairée. Mmh. Et on s'est retrouvé sous spi, 15 nœuds, arrivé à la bouée. On est tombé dessus par pure chance, alors que la moitié de la flotte l'avait dépassé. On devait être milieu de peloton. Et on voyait donc ce qui était bien avant qu'il avait dépassé et avait dû s'en rendre compte, donc il revenait auprès, alors que nous, on arrivait sous spi. Ça nous a permis d'ailleurs de terminer sur le podium sur cette régate, donc on en était très fiers. Mais la bouée est apparue, puisque c'était une grande nuit noire sans lune, est apparue tout d'un coup à 20 mètres du bateau. On était sous spi, il fallait repartir auprès. Et là, à ce moment-là, on était avec un équipage entraîné. D'habitude, on prépare les manœuvres. Et là, on a simplement poussé la barre en disant « on repart auprès ». Et par magie, le spi est tombé, le génois est monté, et 30 secondes après, en pleine nuit, on était auprès, en tête de flotte. Alors que, et c'est ça qui fait que cette cohésion d'équipe, où tout d'un coup est naturelle et se fait naturellement, c'est vraiment, je dirais, des choses très enrichissantes. En tout cas, qui me font...
Ça vous est déjà arrivé, ce sentiment de fluidité collective que vous décrivez, qu'on connaît bien.
D'harmonie collective.
Ouais, c'est exactement ça, et on en parle très souvent chez Marseille, mais est-ce que ça vous est arrivé de ressentir ça avec vos équipes dans votre vie professionnelle?
À ce niveau-là, non, peut-être pas quand même, mais en tout cas, c'est un des objectifs que je me fixe, et en tout cas un des drivers, je sais plus parler français, qui me motive pour en tout cas essayer de travailler dans cet esprit-là, en tout cas.
Et justement, puisqu'on parle de management, on a parlé un petit peu de collectif, de comment vous décidiez, justement en vous appuyant sur l'intelligence collective. C'est quoi vos secrets pour motiver vos équipes?
Faire confiance et dire la vérité. Et ensuite, se fixer un objectif commun que tout le monde connaît et accepte. Et il faut que cet objectif soit ambitieux pour qu'on en puisse se dépasser ensemble. Mais par contre, il faut un vrai objectif. Parle en tant que société, par exemple, souvent on dit il faut être leader. Leader, pour être leader, ça n'a pas de sens, quoi. Bourbon est devenu leader mondial dans son secteur. Ça ne peut pas et ça n'est pas un objectif. Être premier pour être premier, il faut aller au-delà de ça, sinon ça ne peut pas durer, quoi.
Vous me parlez de sens, en fait, quelque part.
Oui, quelque part, oui.
Et quand on traverse une crise comme celle que vous avez connue chez Bourbon...
Et que l'on revit avec le Covid-19...
Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de choses.
Comme tout le monde.
La crise dans la crise. Comment vous faites pour garder le cap, si vous me permettez la métaphore marine, et pour continuer à donner ce sens à vos équipes?
En fait, de toute façon, quand on...
comment on fait pour garder le cap? Ben, de toute façon, c'était notre ancien CEO qui disait que Bourbon, la société est un bien commun. Et ça, je suis d'accord. En période de crise, c'est pas une personne qui va garder le cap. C'est tout le monde se rend compte. L'important, c'est que tout le monde se rend compte de la situation. Et c'est tout le monde qui va pouvoir maintenir le cap et sauver l'organisation. Aujourd'hui, dans notre organisation, tout le monde est sur le pont, comme dans toutes les sociétés. Mais ce sont principalement aussi nos marins qui sont en mer, qui sont bloqués à bord des bateaux depuis maintenant 3 mois, 4 mois pour certains d'entre eux. Ben, ce sont eux qui sont au front, il n'y a pas besoin de les... Bien évidemment qu'il faut expliquer, donner la vision d'ensemble et fixer l'objectif, mais il n'y a pas besoin de motiver tout un chacun particulièrement, parce que chacun se rend compte de la situation et de par soi-même garde le cap et se bat pour la survie de l'ensemble. Donc, en période de crise, c'est chacun dans son rôle et s'assurer que tout le monde ait l'information nécessaire à pouvoir délivrer son propre rôle.
Effectivement, vous avez raison, c'est clé de garder une communication et justement, c'est probablement aussi une des manières de décider de manière efficace, c'est que chacun à sa place puisse faire remonter l'information. Et également que le leader puisse, lui, faire descendre l'information. Et c'est comme ça qu'on atteint ce que vous décriviez tout à l'heure, ces états de grâce collective, quelque part. Mmh. On approche de la fin de notre entretien. On a évoqué beaucoup de sujets dans votre manière de manager. Moi, j'ai senti surtout beaucoup d'humilité dans votre position de leader. C'est quelque chose d'important pour vous ?
Ah oui, très important, oui. Mais on revient, à votre question du début sur le mantra. Effectivement, je pense que l'humilité, c'est important parce que personne n'a la science infuse. Et au contraire, je pense qu'il faut réussir, c'est pas facile, hein, mais il faut réussir à rester humble si on veut toujours être en ouverture. Et effectivement, j'ai plutôt tendance à m'éloigner des personnes qui savent tout. Ouais.
Vous avez beaucoup de points communs définitivement avec nos amis coureurs au large. Dont l'humilité est un trait de caractère assez fort. Donc, je vous remercie vraiment pour toutes ces confidences que vous avez partagées avec nous. J'ai vraiment passé un bon moment à discuter de tout ça avec vous. J'espère que vous aussi.
Oui, ben merci pour l'opportunité.
Et je vais vous souhaiter surtout une bonne continuation dans ce qui vous attend, parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas encore au vent de la bouée, pour reprendre une expression voileuse.
On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin.
Ok. Merci beaucoup, Gaël.
Merci. Au revoir, bonne journée.
Vous venez d'écouter « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt !